C'est la région du globe la plus sensible au réchauffement climatique. L'Arctique est au centre de toutes les convoitises en raison des richesses en hydrocarbures de son sous-sol et de la voie maritime libérée par la fonte des glaces. Michel Rocard, ambassadeur pour la France en charge des négociations pour les pôles Arctique et Antarctique, répond aux questions de Pascal Marcaggi.
Michel Rocard, le deuxième forum sur l'Arctique qui a lieu au mois de septembre, qui s'est appelé d'ailleurs territoire de dialogue. On a envie de se demander si c'est du cynisme ou bien de l'humour. Comment est-ce que vous analysez ce forum qui s'est tenu à l'initiative de la Russie, de la société géographique russe? Est-ce que c'est un bon forum? Est-ce que c'est vraiment international? À quoi ça sert ce genre de forum?
La réponse à ça est très compliquée. Ces forums sont intéressants. Tout le monde en fait. Il y en a beaucoup. Je suis chargé de mission sur ce sujet depuis 2 ans et demi maintenant. Ça doit faire le 4e ou 5e dont j'entends parler. J'ai pas pu aller à celui-là, j'ai assisté à beaucoup. Les difficultés que vit l'Arctique en ce moment exigent au fond que l'opinion publique les connaisse bien. Et c'est toujours une bonne chose de diffuser une information, d'autant plus qu'elle change à toute allure. La région arctique est la région la plus sensible de toute la planète au réchauffement climatique. La diminution chaque été de la glace polaire de l'année frise maintenant, par rapport à il y a 20 ans, à peu près 4 millions de kilomètres carrés, 8 fois la surface de la France. C'est évidemment absolument gigantesque. Et puis cette information s'accompagne de beaucoup d'autres sur des menaces pour la diversité biologique, sur les fontes à côté de la glace. Du pergélisol. Le pergélisol, c'est le sol gelé, tout bonnement. Mais quand il fond, si c'est de l'argile, il devient mou. Et les maisons s'enfoncent. Et l'habitat, notamment des Inuits, enfin des habitants aborigènes de ces régions, devient insalubre, sinon même disparaît. Et tout ça est très grave. Et que la communauté scientifique s'y intéresse, c'est une bonne chose. La Russie, en organisant ce symposium, a voulu montrer un grand intérêt. Mais il y a autre chose. Il y a encore 30 ans, personne n'allait jamais en Arctique, on pouvait pas y aller, même l'été, et rien n'y était possible. Et puis on faisait la guerre, puisque sous la glace polaire, elle a rarement eu plus de 3 ou 4 mètres d'épaisseur, et en ce moment, elle est réduite à 1,50 m d'épaisseur à peu près. Sous cette plaque de glace, l'océan Arctique est très profond, le pôle Nord est à moins 4200 mètres, c'est beaucoup, et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ceux de la guerre nucléaire, sont en patrouille constante là, aussi bien américains que russes. Et ça, ça continue. Mais maintenant que le réchauffement climatique donne à plein, beaucoup plus de recherches scientifiques devient possible. Les 4 millions de kilomètres carrés de glace qui ne sont plus en glace maintenant libèrent de l'eau pour au moins 3 mois par an, dans laquelle on pourra aller pêcher. On n'a encore pas commencé, mais ça va venir. Les grands armateurs à la pêche s'y préparent, c'est évident. Le fait de longer le pôle par la côte sibérienne ou par la côte canadienne raccourcit la distance entre l'Europe d'une part et soit la Chine, soit le Japon, soit la côte ouest des États-Unis d'autre part, de plus de 30 à 40% par rapport au passage par le canal de Panama. Ce qui veut dire que le passage par l'Arctique intéresse un monde fou. Et puis, l'Arctique est un deuxième Moyen-Orient. Il a sous l'Arctique 30%, ce chiffre est absolument énorme, de toutes les réserves de gaz connues sur la planète, et à peu près 13%, c'est aussi un très gros chiffre quand même, du pétrole liquide connu. Quand tout est gelé à longueur d'année, impossible. Maintenant que l'eau sera liquide, il sera beaucoup plus facile d'aller y travailler. Il y a donc un club des riverains, qui sont 5. États-Unis, Canada, Norvège, Danemark à cause du Groenland et Russie. Il nous faudrait pour la pêche une organisation internationale régionale qui prévoit quels sont les poissons à préserver, quels sont ceux qui ne vont pas pêcher du tout, quels sont ceux qu'il faudrait ne pas pêcher au moins pendant leur période de production, dans quelle sous-zone, dans quelle région, etc. On n'a pas encore les travaux scientifiques pour faire tout ça. Pour le moment, on a un refus des riverains d'envisager une réglementation de la pêche. C'est complètement dramatique et scandaleux. Pétrole, tout le monde se souvient de l'accident du golfe du Mexique l'an dernier. Cet accident a eu lieu à un endroit qui est à moins d'une journée de mer, d'au moins 3 grands ports internationaux puissamment équipés. De plus, il y a des produits chimiques qui aide à dissocier les molécules de pétrole ou de gaz pour aider à leur dissolution, à leur dilution plutôt plus facile en eau de mer. Ces produits ne travaillent que par chaleur, que dans des eaux chaudes. Donc dans l'Arctique, ils ne travailleraient pas. Et si on a un accident pétrolier dans l'Arctique, on est à 8 jours de mer du transport des moyens disponibles. Ça mériterait probablement que soit élaboré un code international, une mutualisation extrêmement rigoureuse des moyens de secours. Rien de tel n'est commencé. Pour le moment, nous sommes dans des refus. Et même pour la fréquentation par la haute navigation. Sur ces côtes qui font 7000 km de l'Atlantique au Pacifique, en passant par le Grand Nord, il n'y a pas un phare, il n'y a pas une balise. 3 accidents l'année dernière dans les eaux canadiennes ont eu lieu parce que les cartes étaient fausses et que les bancs de sable étaient mal relevés ou les rochers, donc des échouages. Tout ça est effrayant. Et puis naturellement, il n'y a pas un port. Enfin, il y a Mourmande, c'est Arkhangelsk, et puis presque pas de l'autre côté. Il n'y a pas de flotte d'avions d'observation. Et il n'y a pas non plus, c'est encore plus grave, de flotte d'hélicoptères de sauvetage. Donc on ne peut pas y aller pour le moment. La réponse devrait être une préparation juridique internationale. Rien de tout ça ne commence. Et en fait, le beau colloque russe, il a aussi un petit aspect, faire semblant de s'occuper de l'Arctique sans ouvrir la porte au débat juridique sérieux. La Russie ne laissera pas dire qu'elle s'intéresse pas à l'Arctique, la preuve le colloque. Mais de fait, personne ne fait avancer les affaires, et donc l'élégance et la densité scientifique du colloque russe ne vient pas corriger une très insuffisante préparation législative internationale à un usage international de l'Arctique qui va bien venir.
Est-ce que ça veut dire que la question environnementale est perdue d'avance ? Est-ce qu'elle est symptomatique aussi de la situation internationale ? On s'occupe de l'environnement, mais quand même, on donne la priorité absolue aux intérêts économiques. Et parmi les principales avancées techniques, il y a par exemple, c'est une entreprise technique qui annonce que oui, elle sait faire des plateformes pétrolières énormes. Et paraît-il, il y aurait des camions pompiers, donc de toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter. Et en fait, on parle d'avancée, mais sauf pour l'environnement, en fait.
L'Arctique vit un drame environnemental. C'est vrai. Mais ce drame environnemental, c'est le réchauffement climatique, dont la source n'est pas en Arctique. La source, c'est nos usines, nos agricultures et nos moyens de transport. Et le fait qu'on ne fasse rien, échec de la conférence de Copenhague, est très terrifiant, veut dire que le réchauffement climatique va continuer. Mais l'Arctique, il n'y a pour rien en elle-même. Il n'y a ni normes internationales, ni gros moyens. Et alors, au milieu de tout ça, chaque État prend sans doute le maximum de précautions marginales pour lui-même dans son coin. Mais l'insuffisance de coopération internationale fait qu'il n'y a pas d'offensive d'amélioration générale de la prévention. Et c'est surtout les activités pétrolières qui appelleraient ça. Si la pêche, la grande navigation commerciale, des milliers de navires se mettent à utiliser l'Arctique avant que le statut légal ait été précisé, que les obligations, la mutualisation des secours, des financements, des infrastructures d'une part et des moyens de secours de l'autre, communs soient mis en place, là c'est très dangereux. On ne peut pas parler d'un danger actuel, mais l'inaction juridique où nous sommes fait qu'on ne prépare pas la réponse à d'incontestables dangers futurs, qui pour être futurs n'en sont pas moins à peu près certains.
Le droit qui régit l'Arctique, c'est un peu encore la zone de non-droit qui est essentielle pour la mer. C'est une zone réellement de non-droit. Il y a le droit de la mer et puis c'est à peu près tout.
L'océan Arctique, il est petit et tous les riverains ont des zones économiques exclusives de 200 000 nautiques. 200 000 nautiques, ça fait 370 km à peu près, au loin au large. Ça couvre déjà 40% de l'eau de l'océan. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de loi de la mer, puisque le droit de la mer s'applique y compris à l'océan Arctique, pôle compris. Le droit de la mer, c'est une convention de l'ONU qui a été signée en 1982, et ça s'appelle une clause, United Nations Convention on the Law of the Sea, sur le droit de la mer. Une clause établit un droit de la mer. Mais pour les eaux libres, ce droit n'emporte pas de précautions environnementales ni respectueuses des espèces de pêche. Donc le non-droit vaut simplement pour les richesses proprement océaniques dans les eaux libres. D'autre part, cette même convention prévoit que si un pays peut faire la preuve de ce que dans les eaux lointaines de chez lui, le sol sous-marin au-delà de sa zone économique exclusive est exactement la continuité géologique du sol de sa zone exclusive. Un comité chargé de ça, le comité des limites du plateau continental, CLPC, qui siège à Londres, a reçu mission d'étendre les zones économiques exclusives quand il n'y a pas de discussion géologique. La Norvège a déjà fait sa demande et reçu sa réponse. Et sa zone économique exclusive a été élargie à 350 milles en mer, ce qui fait 720 kilomètres. C'est tout de même gigantesque. Avec deux pustules sur lesquelles il y a aussi un droit russe potentiel. La Russie annonce le nouveau dépôt de sa deuxième demande pour l'an prochain ou dans deux ans, je crois. Le Canada et le Danemark pour le Groenland annoncent le dépôt de leur dossier pour 2013. Et après, ils seront forclos. On ne peut déposer un tel dossier que dans les 10 ans qui suivent la ratification par le pays en cause de la Convention sur le droit de la mer. Donc ça s'arrêtera un jour. Les États-Unis n'ont pas ratifié. La probabilité, c'est que dans 15 ans, tout le monde ait eu satisfaction et qu'il reste comme eau libre uniquement les interstices entre tout ça qui font pas 9% de la surface de l'océan. Et c'est seulement pour ces 9% que la question d'un traité international sur le respect des richesses naturelles des océans peut se poser. Mais personne ne l'envisage pour le moment. Pour le reste, ce sont les États côtiers qui sont responsables de la sécurité et de la protection de l'environnement. Donc il n'y a pas que de l'international là-dedans, il y a énormément de national et il nous faut de la pression convenable pour que tous ces États se conduisent décemment.
La perspective de Rio, vous avez beaucoup parlé de la gouvernance et notamment du fait que l'ONU doit servir à quelque chose en modifiant sa votation. Est-ce que vous croyez réellement qu'il va sortir de Rio, enfin, une communauté internationale, cette gouvernance?
Pour demander trop, faut pas demander l'impossible. Rio est en principe une conférence perdue d'avance. On va faire quoi? On va écrire une résolution. Chapitre 1, qu'est-ce qu'on avait promis au premier Rio en 1992? Chapitre 2, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Chapitre 3, la différence est énorme et complètement accablante. Chapitre 4, il faudrait pourtant arriver à faire ci, ça, ça, ça. Sous-entendu, comme on n'a pas été capable de le faire avant, on voit pas pourquoi on deviendrait capable de le faire après. Alors, ce qui est possible, c'est que le Brésil ait le culot de demander au présent à Rio d'aller un peu plus loin dans la réflexion et de dire pourquoi on n'a rien fait. S'ils osent aborder la question, c'est pas fait, c'est pas sûr, c'est difficile, ils se mettront à dos tous les membres permanents du Conseil de sécurité, mais ils veulent pas que leur conférence échoue. Si le Brésil décide de ça, Rio pourrait bien dire, en fait, on a découvert l'impossibilité de se mettre d'accord unanimement dans le monde par consensus. Et il faudrait donc voter pour les choses lourdes. Or, le monde est ainsi fait qu'en ce moment, le seul endroit où le monde vote sur sa propre destinée, c'est l'Organisation des Nations Unies. Si déjà le consensus est dénoncé, et si aussi Rio pourrait faire ça, dire que le mot de sécurité, qui est le mot-clé de tout le langage de l'ONU, et qui est le cœur des responsabilités de la charte du Conseil de sécurité. Cette sécurité, jusqu'à présent, on n'en a parlé qu'en termes militaires. Si Rio ose dire qu'il y a aussi une sécurité climatique et une sécurité financière, la responsabilité du Conseil de sécurité s'ouvre. Mais jusqu'à présent, pour que les nations se mettent d'accord sur un moyen de travail en commun, faut au moins une guerre mondiale. C'est cher. On recommence pas ça pour le plaisir de se donner une organisation. Ce que nous cherchons, c'est un déclic de commencement. Bon courage au Brésil.
Monaco, petit pays, mais avec son Altesse Sérénissime qui est engagée dans l'écologie. Est-ce que son engagement peut servir à quelque chose?
Bien sûr. L'engagement du prince a été considérable pour faire passer des problèmes de préservation de l'environnement dans l'opinion publique, et notamment la connaissance des pôles, puisque jusqu'à présent, c'est le seul chef d'État qui soit allé physiquement, personnellement, sur les deux pôles. C'est considérable. Mais Monaco est un tout petit pays, le prince le sait bien, ce n'est pas à le décevoir que de dire ça, et il n'a pas l'influence. Et puis en plus, il y a une relative tutelle d'un grand voisin encombrant et désagréable qui est la France. Et Monaco ne peut pas dire « les règles du jeu international, ça marche pas ». Il faut pour ça être libre, ne dépendre de personne et n'avoir peur de personne. Le Brésil peut s'offrir de luxe, Monaco non, c'est dommage. Mais la fidélité du prince aux causes de l'environnement est un grand facteur, pas un petit. Parce que dès que le prince se balade, c'est un chef d'État, quand même, membre des Nations Unies, qui annonce, ça compte.
L'engagement, ça compte, et l'espoir aussi. Espérons alors que Rio plus 20 signe la fin d'une longue série de sommets internationaux infructueux.